Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la marque pour cheveux Shaëri. Shaëri allie recherche dans la cosmétique française et pharmacopée ancestrale méditerranéenne, revisitant ainsi des ingrédients comme le figuier de Barbarie, l'argan, l'aloe vera ou les huiles essentielles. Tous les produits sont disponibles sur shaëri.com, au Monoprix ou chez les revendeurs agréés. Vous pouvez d'ailleurs découvrir le parcours de Meriem, fondatrice de la marque, dans l'épisode 11 du podcast. Bonjour à toutes et à tous, ici Boshra Fourti et bienvenue sur Heya. En arabe, Heya signifie « elle ». C'est parce que ce mot n'est pas suffisamment utilisé pour parler de réussite et d'ambition féminine que j'ai décidé de lancer ce podcast. Les inégalités et la sous-représentation liées au genre sont malheureusement une réalité, et une approche intersectionnelle ne fait qu'amplifier ces phénomènes. Chaque épisode est une conversation où j'invite une femme de culture arabe à venir partager son histoire et évoquer sa réussite. Mes invitées ont toutes des backgrounds et trajectoires différentes. Elles sont journalistes, entrepreneurs, écrivaines, artistes ou encore médecins, et vous serez, je l'espère, inspirées par leur réussite. L'objectif de ce podcast est double. Tout d'abord, promouvoir une image différente de la femme arabe en mettant en lumière ses parcours exceptionnels, mais aussi aider les plus jeunes ou celles en quête de renouveau à trouver des rôles modèles et ambitionner leur avenir. Ma conviction ultime est que la seule manière d'y croire, c'est de le voir, ou en l'occurrence l'entendre. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à prendre quelques minutes pour le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre invité du jour. Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Yasmine Boéas, créatrice du compte Bonjour la Smala et autrice du livre Un compte Instagram qui vous ressemble. Née d'une maman bretonne et d'un papa marocain, Yasmine revient sur son enfance pleine d'amour, de couleurs et de musique. Elle évoque avec une immense fierté ce double héritage, malgré sa confrontation brutale au racisme à l'âge de 7 ans, lorsque sa famille emménage dans un petit village. Yasmine revient sur son parcours professionnel et la manière avec laquelle elle s'est formée sur le terrain au travers de différents métiers. Elle relate les prémices du compte Bonjour la Smala et son évolution jusqu'au lâcher-prise qu'elle prône aujourd'hui. Yasmine partage également ses top tips en tant que professionnelle d'Instagram. Nous avons aussi discuté de son rôle de maman, de l'importance de ne pas s'oublier en tant que femme et du sentiment de culpabilité souvent lié à la maternité. Enfin, nous avons parlé de son projet photo intitulé « Cher corps, je t'aime » qui met en lumière la beauté dans la diversité des corps. Sans plus attendre, je laisse place à la Heya du jour, Yasmine Boéas. Bonjour Yasmine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te compter parmi les invités de Heya.
Moi aussi, merci beaucoup. C'est un podcast qui a de belles valeurs et une belle portée et je suis contente de faire partie des femmes que tu as sélectionnées pour interviewer.
Super, merci Yasmine. Yasmine, la tradition sur Heya, c'est de commencer par les origines. Donc si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, l'environnement, la famille dans laquelle tu as grandi, l'éducation que tu as eue?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis métisse, j'ai un papa marocain qui a grandi entre Fès et Meknès et j'ai une maman bretonne, 100% bretonne. un grand frère et mon enfance, j'ai grandi dans une famille très modeste. Mon père a travaillé dans le bâtiment pendant plus de 10 ans en France et ma mère était secrétaire médicale et donc, j'ai grandi dans un HLM, dans un des quartiers de Rennes en Bretagne. Et voilà, c'était une enfance plutôt très heureuse avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, des moments en famille très chaleureux. Voilà, je pense que j'ai grandi comme beaucoup autour de la musique, autour de la fête, autour de la danse. Il y avait toujours beaucoup d'amis de mes parents à la maison. On partait souvent au Maroc l'été. Enfin voilà, j'ai connu les deux cultures de façon assez équitable. Et j'ai grandi avec ça et ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais c'était plutôt une belle enfance.
Top, top, top. Et comment la Yasmine, enfant, imaginait sa vie d'adulte? Est-ce que tu rêvais un métier ou est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient te projeter plus tard en tant que femme adulte?
Alors, petite, comme j'ai grandi dans ce milieu un peu de la musique, tout ça, mes parents écoutaient beaucoup, beaucoup de musique. Et je pense que j'ai eu cette envie très rapidement d'être chanteuse, danseuse professionnelle. Et c'est marrant parce que je me vois aujourd'hui et en fait, ce monde des réseaux sociaux, le côté très, enfin voilà, le côté vidéo, se mettre en scène, ben j'ai toujours adoré ça en fait. Donc voilà, donc c'est marrant parce que c'est pas exactement ce que je fais aujourd'hui, mais il y a quand même un lien avec mes rêves. Donc c'est marrant. Je m'imaginais pas forcément à part ça. Je m'imaginais, j'étais une enfant qui était plutôt à vivre au jour le jour. J'avais ce rêve de réussir quelque chose dans ma vie, mais je savais pas forcément quoi. Et dans mon évolution à l'école, c'était particulier parce que je me sentais pas dans le système, tu vois. C'est-à-dire que je trouvais que j'étais une enfant qui était quand même assez intense émotionnellement, qui avait besoin qu'on l'accompagne, tu vois. Si j'avais pas un professeur qui était vraiment derrière moi, c'était compliqué pour moi de bien travailler, de m'appliquer, etc. Et c'est vrai que j'aimais pas trop l'école, en fait. J'aimais pas trop ça. Mais bon, j'ai fait mon job jusqu'au bac. J'ai eu la moyenne au bac. Et après ça, quand tout le monde partait en BTS à la fac, moi j'ai essayé une fac de langue pendant 3 mois. Ça m'a pas plu. Du coup, je suis partie et je suis rentrée dans le monde de la vie où il a fallu être sur le terrain, travailler. Et là, j'ai commencé à bosser, en fait, tout de suite, à mes 18 ans.
D'accord. Et avant de parler des boulots et ce que tu as fait après 18 ans, j'aimerais juste rester un peu plus sur la petite Yasmine. Comment tu vivais cette double culture? Parce que c'est assez intéressant d'avoir à la maison une maman française et un papa marocain. Comment tu le ressentais? Et puis t'es plutôt t'as un prénom Yasmine qui a une connotation un peu arabe ou enfin qui peut être les deux, mais qui a un peu une connotation. T'as des cheveux un peu bouclés. Comment tu vivais cette double culture et qu'est-ce qu'on t'en renvoyait?
Ouais, c'est intéressant comme question. Déjà, dans le choix du prénom, c'est marrant parce que ce que me disait ma mère, c'était soit vous alliez avoir des prénoms français avec le nom de famille de votre père, soit c'était mon nom de famille avec des prénoms arabes. Parce qu'à l'époque, je crois que ma mère, elle avait très peur de tout le racisme qu'il y avait autour de, enfin voilà, en France en général, à cette époque-là, c'était compliqué. On le ressentait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'était différent. Et ben, quand j'ai grandi dans le HLM, il n'y avait aucun souci parce qu'on était plein de familles, rebeux, asiates, renois, tout. Mais quand je suis arrivée, parce que je suis partie à la campagne quand j'avais 8 ans, je suis partie dans un petit village qui s'appelle Melès à côté de Rennes. Et on était littéralement la première famille métisse à arriver dans ce bled. Et ça a été un moment compliqué pour moi à l'école, moi, mon frère, et compliqué pour mon père. Parce que on recevait des appels sur le téléphone fixe, on se faisait traiter de bougnoule, d'arabe, de salarabe. On a eu des trucs, t'es là, enfin, t'es là, mais comment c'est possible? Moi, je me suis... enfin, voilà, j'avais des petites réflexions de temps en temps, mais les gens, en fait, ils... À cette époque-là, dans ce bled-là, tu vois, les gens, ils savent pas, c'est des ignorants, ils sont, tu vois, donc il a fallu un temps. Mais après, ça s'est fait, on est là, on y est depuis longtemps maintenant. Après, là, maintenant, il y a plein de familles, c'est mélangé comme village. Il y a des immeubles qui sont arrivés, ils ont construit pas mal aussi. Et maintenant, c'est très mélangé, mais quand on est arrivé, je te jure, c'était particulier comme, du coup, nous, on a ressenti ça.
Et c'était ta première, du coup, confrontation à tes origines, à ce que tes origines renvoyaient, parce que jusqu'à 8 ans, tu disais que tu étais dans le HLM, et du coup, bah, t'es un peu comme tout le monde, parce qu'il y a de tout.
Exactement.
Et là, c'est un peu
Exactement.
une claque, j'imagine, à 8 ans, en plus, on commence à comprendre, enfin, on est assez grand pour processer l'information et comprendre le sens des mots.
Exactement. Et j'étais en colère quand ça arrivait parce que je comprenais pas. J'étais là, mais on est tous des êtres humains, on est tous pareils. Qu'est-ce qui nous arrive? Donc j'avais beaucoup de d'injustice. Donc j'ai, enfin voilà, je défendais beaucoup mon père sur là-dessus. Et je me souviens qu'il me racontait même au travail comment c'était compliqué. Enfin, en fait, il en prenait plein la gueule dans tous les domaines, tu vois. Et je pense que ça, son histoire à lui, parce qu'elle est difficile, plus ce qui s'est passé pendant que j'étais jeune, etc., à ce niveau-là, ça m'a créé quelque chose en moi, une espèce de force en plus qui fait que je me bats sur tout maintenant, tu vois. Je suis très combative. Et aussi la force de ma mère, parce que ma mère, c'est une femme incroyable qui a géré la famille comme personne et qui s'occupe de tout le monde avant de s'occuper d'elle et qui nous a donné beaucoup d'amour, qui nous a permis de partir en vacances quand c'était même compliqué financièrement. Enfin, voilà. J'ai beaucoup de respect pour mes deux parents.
Est-ce que tu as eu honte de tes origines dans cette tourmente un peu où tu te prends un peu cette claque à 7-8 ans? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ça fait chier d'être arabe? Et est-ce que je me cache pas du côté de ma mère? Après tout, je suis à moitié bretonne.
Jamais, jamais, je me suis jamais dit ça me fait chier d'être arabe. Au contraire, j'étais fière de ça. J'étais fière de ça. Par contre, c'est vrai que ça m'a donné des petites difficultés parce que j'étais jamais 100% de l'un, 100% de l'autre, tu vois.
Ouais.
Parce qu'au collège, on m'appelait demi-portion, que j'étais pas trop acceptée avec les rebeux et que du coup, tu vois, j'avais des trucs un peu comme ça. Tu vois, l'ambiance collège où t'es quand même assez, c'est quand même assez difficile. Les gens, les enfants, ados même, ils sont assez cruels entre eux. Donc, t'essayes de faire partie d'un groupe, mais en fait, tu l'es pas complètement, etc. Mais j'ai toujours été fière de mes origines des deux côtés, en fait. Même si ça a été compliqué côté arabe d'avoir, parce que je parle pas arabe.
Parce que ton papa a fait le choix de se focus sur le français, parce qu'il y avait beaucoup à l'époque aussi, ne donnez pas trop de langue, ils vont s'en mêler les pinceaux.
Ouais, je sais pas si c'est ma mère qui voulait pas ou si c'est lui qui apprenait le français, donc du coup qui m'a jamais parlé. Mon frère parle beaucoup mieux que moi parce qu'il est aussi allé plus au Maroc. Et moi, ben voilà, je sais dire 5 6 mots. Et ça, c'est une petite souffrance que j'ai parce que du coup, ça m'a enlevé la connexion avec ma famille sur place. Et tu vois, j'ai repensé là il y a 2 3 mois, j'ai repensé, je me suis dit mais en fait, il faut absolument qu'à la rentrée, je prenne des cours d'arabe. Absolument que je reconnecte avec ma culture et que je sois plus dedans, tu vois.
Yasmine, donc on va continuer un peu sur ton parcours, pardon. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je disais dans une interview, on te demandait de revenir sur ton parcours académique et tu disais, mon apprentissage, c'est la vie la plus enrichissante de toutes les écoles.
Ouais.
Est-ce que tu peux un peu revenir sur ça? Donc tu disais, tu as eu ton bac donc à 17-18 ans et ensuite tu as rapidement travaillé parce que la fac, c'était pas trop pour toi. Tu peux nous en parler un peu
Ouais.
plus?
Alors moi j'étais une ado déjà qui avait besoin, qui avait envie, qui adorait déjà la mode et qui avait envie d'avoir son indépendance très rapidement, tu vois. Donc du coup, ça passait par quoi? Parce que j'avais 20 euros par mois comme argent de poche. Donc ça passait par il fallait que je travaille, tu vois. Il fallait que je gagne mon propre argent pour avoir mon indépendance, pour pouvoir m'acheter des vêtements parce que j'adorais la mode, pour voilà, être libre, tu vois. Effectivement, moi, le parcours scolaire, c'était pas quelque chose pour moi. En tout cas, les options proposées étaient pas ce qu'il me fallait, dans le sens où je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Donc si j'allais pas tester sur le terrain, je saurais jamais, tu vois. Et c'est bien les conseillers d'orientation à 17 ans qui viennent te voir, machin, mais il y a des jeunes à 17 ans, ils savent toujours pas. En fait, il n'y a pas, tu vois, à part suivre ce que te disent tes parents, ou à part suivre tes potes, tu vois, moi c'était, ils allaient en BTS commerce, en BTS banque, ils allaient à la fac. Bah, à part suivre ça, il n'y avait pas trop d'autres choix dispo, quoi. Donc moi, je suis partie de la fac et j'ai commencé à travailler dans les magasins de vêtements.
Ça, c'était facilement accepté par tes parents? Il n'y avait pas un peu cette culture de il faut absolument faire des études parce que c'est avec ça que tu vas t'en sortir?
Bah, mon père, il avait ce truc de je veux que tu sois médecin, avocat,
Ouais.
je veux que tu réussisses parce que je veux que, tu vois, en gros, je veux que tu réussisses par rapport à moi, mon parcours, je veux que tu sois bien, quoi, tu vois. C'est drôle parce que mon père, il comprend toujours pas mon métier aujourd'hui, donc c'est marrant. Du coup, ouais, ça a été un peu, je pense, un peu stressant pour eux. Je leur ai jamais demandé, mais en vrai, je pense que ils m'ont juste suivi dans ce que je voulais, en fait. Je crois que ça a été, il n'y a pas eu énormément de blocage à part du stress où ils se sont dit, oh là là, peut-être financier, tu vois. Mais en vrai, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours soutenu et du coup, ça m'a fait passer, tu vois, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans ou 17 ans. Non, 17 ans. Je travaillais déjà au McDo. Tu vois, je gagnais déjà un peu d'argent, etc. Et là, quand j'ai commencé dans les magasins de vêtements, après j'ai travaillé chez Orange pendant 2 ans. Et après, à mes 21 ans, j'ai rencontré un garçon dont je suis tombée amoureuse, qui voulait partir à Barcelone, et donc je l'ai suivi. Et c'est là que, bah, après, ma carrière a pris aussi un autre tournant encore, parce que je suis arrivée à Barcelone et j'ai travaillé pour Cucaï, donc qui est une marque française, mais il y avait une boutique en plein centre-ville de Barcelone. Et j'ai eu la chance d'évoluer dans cette boutique et de pouvoir, avec mon droit à la formation, faire en fait, des formations. Donc, j'ai fait une formation de visuel merch dans une école de mode là-bas, qui m'a permis ensuite, 3 mois après, de devenir visuel merch Espagne pour la marque. Après, j'étais motivée, voilà, je voulais pas rester toujours sur le même poste. Voilà, j'étais vendeuse, première vendeuse, et après, j'étais visuel merch. Je voyageais partout en Espagne, c'était génial. Donc, j'ai appris à connaître l'Espagne comme ça, en fait. Et je manageais enfin, du coup, je formais des équipes. J'étais dans quelque chose d'assez esthétique, visuel, parce que, voilà, il fallait agencer les boutiques en fonction des collections. J'étais déjà dans cet aspect. Il y avait déjà un petit côté un peu artistique, esthétique dans mon métier. Voilà, j'ai fait ça pendant 6 ans. Après, j'en ai eu un peu marre, donc j'ai refait une formation, cette fois dans le journalisme de mode et la communication, toujours en étant chez Coupay. Et là, je me suis dit, quand même, ok, le projet de fin, c'était de monter un blog, ouvrir des réseaux sociaux. Et je me suis dit, waouh, là, il y a encore un autre truc, encore une autre façon de s'exprimer
On
qui arrive.
était à... C'était quelle année, ça? C'était les débuts des réseaux sociaux?
Ça, c'était 2014, 2015. Ouais, je crois que c'est ça. Mais Instagram n'existait pas encore. Il y avait Tumblr, il y avait Twitter déjà qui était en place. Il y avait, bon voilà, les blogs, etc., quoi. Et du coup, j'ai commencé un projet de façon naturelle où, en gros, j'avais un blog sur lequel je parlais d'artistes émergents, et du coup j'allais les interviewer, j'allais dans leurs ateliers les prendre en photo, et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le côté j'écris des articles, je fais des visuels, voilà, j'exprime et je montre les talents d'une certaine façon. J'ai un compte Instagram après qui est arrivé, etc., et j'ai organisé des expositions d'artistes. J'étais dans ce monde de l'art parce que de toute façon Barcelone c'est un vivier incroyable au niveau voilà, d'artistes, quoi, hein, dans tous les domaines. Donc, ça m'a créé un réseau de fous, et voilà, et j'en ai fait un projet qui m'a pas rémunéré, mais c'était un premier projet pour rentrer là-dedans, dans la communication, finalement, tu vois. Apprendre à organiser un événement, apprendre à avoir une stratégie de com, apprendre à contacter la presse, apprendre à se créer un site, etc. Enfin, voilà, c'était un peu mon apprentissage, quoi, sur le terrain de ce qu'on m'avait dit en cours. J'avais eu la chance d'avoir un super prof, parce que c'était challengeant, hein. Il fallait y aller dans les cours en espagnol ou en catalan, hein. Pour moi, c'était difficile, hein, mais j'ai eu la chance d'avoir un prof qui était très multicasquette, qui était à la fois DJ, prof, photographe de concert. Et quand j'ai vu son profil, je me suis dit, waouh, c'est possible, en fait, d'avoir plusieurs casquettes dans un univers, dans un métier. Et là, je me suis dit, là, je connecte, et là, c'est ce que je veux aussi. Cette curiosité que j'ai envie de pouvoir l'explorer et avoir plusieurs casquettes dans un même métier, tu vois. Voilà. Donc, je pense que là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être s'identifier à ça aussi. C'est que, souvent, les métiers, on va dire traditionnels, généralistes, bah, t'es dans un truc, quoi, tu vois. T'es dans une tâche qui peut parfois être un peu répétitive. Là, avoir un métier où tu peux justement t'exprimer et être pleinement toi-même, entre guillemets, c'est
Ouais.
cool, quoi.
Absolument, absolument. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ça et aussi dans le fait de ne pas savoir quoi faire. Et je trouve que pour les jeunes, ça doit être hyper angoissant. À 17, 18 ans, bon, bah, tu veux faire quoi? Et presque, bah, c'est, tu conditionnes le reste de ta vie. C'est ton job et tu choisis droit ou je ne sais quoi. Et ça y est, tu vas être avocat ou tu vas être médecin ou tu vas être. Et c'est un peu, je trouve que c'est hyper angoissant parce que autant il y a des gens, c'est des vocations et c'est évident, autant il y a des gens, moi, j'étais un peu comme ça. Enfin, je savais pas trop, exactement comme tu disais. J'ai fait mes études parce que mes copines allaient là et que ça semblait ok, bah je vous suis. Enfin, il y a beaucoup de, enfin de hasard et puis sur le chemin tu trouves ta route. Et je trouve qu'il y a deux, en plus avec enfin, les réseaux sociaux et notre société où le temps est très court, t'as l'impression que tu dois avoir les réponses tout de suite. Il y a moins ce temps long en te disant prends le temps, tu verras,
Ouais,
ça va avancer.
exactement. Et surtout, ben même les jeunes de notre génération à nous, qui étaient dans ce truc de je suis avocat, je suis médecin, aujourd'hui, t'as une grande partie qui se reconvertit.
Absolument,
Et en
absolument.
fait, qui se dit, c'est bon, maintenant, j'ai le droit de vivre pour moi-même et
Exactement.
je veux faire ce que j'ai envie de faire depuis, peut-être 10 ans, tu vois. J'ai envie d'être, voilà, la personne que je suis réellement. J'ai envie de créer mon projet. J'ai envie d'être prof de yoga alors que j'étais avocate. J'ai envie de, enfin, tu vois. Et ça, c'est magique. Mais pourquoi ça doit arriver aussi tard, tu vois?
Ouais. Mais je pense que c'est la nouvelle génération, ils sont beaucoup moins dans ça. Je pense qu'on était probablement la dernière génération où tu te sentais un peu enfin, forcé, où il fallait un travail sérieux, il y avait un peu cette pression et comme tu savais pas, bah, je coche par hasard. Et comme tu dis, après, tu apprends à te connaître aussi. Et à 30, 40 ans, bah, soit tu pètes un plomb, soit tu pètes pas un plomb, mais tu dis, c'est pas ce que je veux, je suis pas heureux. Ou je veux faire, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les slasheurs maintenant,
Ouais.
des gens qui ont différentes casquettes, comme tu le dis, mais des jobs différents qui sont, j'en ai interviewé beaucoup, une fille qui était très, enfin, qui était trader et qui faisait de la danse et le soir elle faisait des spectacles, dentiste et écrivaine, enfin, il y en a plein qui font plusieurs métiers pour pouvoir assouvir un peu ces différentes envies et désirs que chacun peut avoir.
Exactement. Et c'est beau de se redécouvrir même si c'est plus tard, je trouve ça génial, moi, d'avoir le courage de se dire, c'est bon, maintenant, je veux suivre mes envies, mes besoins et ce que je veux réellement faire, tu vois. Parce que voilà, on n'a qu'une vie et
La vie est
c'est,
courte, ouais.
voilà, exactement.
Ouais. Je vais revenir à Bonjour Lasmala. Pourquoi Bonjour Lasmala? J'adore le nom, moi.
Alors, bonjour la Smala, c'est parti d'un, ben, j'avais mon ordi sur mes jambes et commencé à chercher un nom pour mon blog. Et donc, je commençais à écrire des phrases, tu vois, pour voir ce qui fonctionnait ensemble, etc. Et c'est venu en plusieurs tentatives, recherches, etc. C'est venu après, parce que je trouvais que ça correspondait bien à ce que je vivais, à moi, à mes origines, à ma famille, à un peu tout, tu vois. Je sais pas, je trouvais que ça englobait bien le nom. En plus, à ce moment-là, on venait d'emménager à Toulouse en famille. J'avais un contenu qui était quand même assez axé famille au départ. Donc du coup, Bonjour Lasmala, ça correspondait à ça à la base. Mais aujourd'hui, Bonjour Lasmala, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que pour moi, Lasmala, c'est aussi ma communauté qui me suit depuis des années. Voilà, c'est aussi ce partage-là que j'ai avec elle. Et pour moi, c'est eux, Masmala, quoi. Et depuis, enfin, j'ai sorti ce nom, et depuis, il y a eu beaucoup de pseudos qui sont sortis, bonjour quelque chose, bonjour machin. Et c'est marrant parce que je trouve que ce nom-là me correspond entièrement. C'est à la fois l'Asmala dans mon métier, ces communautés de mes clientes qui sont des femmes, qui cherchent à se rendre visibles, tu vois, sur les réseaux, à vendre leurs créations, à vendre leurs projets, etc. C'est ma smala d'entrepreneur, c'est ma smala de communauté, ça englobe tout le monde en fait. Et c'est aussi, moi j'ai quelque chose de profondément empathique envers les gens, tu vois, je me sens dotée d'une mission d'aider les gens d'une certaine façon dans ma vie, et je pense que c'est aussi ça. Bonjour la smala, c'est moi avec les gens, que ce soit des personnes que je connais ou pas. J'ai envie voilà, de diffuser ce côté joyeux, ce côté créatif, montrer aux gens que bah voilà que même s'il y a des galères, ben on s'en sort tous avec le smile et que ça peut aller en fait. On peut avoir une vie cool. Voilà, c'est bonjour la Smala, c'est large, mais ça correspond à plein de choses en fait.
Yasmine, ton compte a pas mal évolué quand je scrollais un peu au début et je pense que j'ai dû te suivre à ces moments-là. C'était un compte un peu plus dans la maîtrise, je dirais. Et il a beaucoup évolué vers la spontanéité avec, entre autres, tes super danses, lâcher prise. Quel a été le déclic? Est-ce que tu te souviens un peu du moment où le ton, la tonalité a un peu changé?
Alors, j'ai pas un moment précis, mais je pense que c'est effectivement un cheminement que beaucoup de comptes doivent vivre. Tu vois, beaucoup de personnes derrière les comptes Insta ont dû avoir un moment comme ça. C'est-à-dire que quand tu arrives sur les réseaux sociaux, tu sais pas forcément comment ça marche, et effectivement, tu es dans le contrôle. Tu montres un peu ce que tu as envie de montrer, parce que tout ne correspond pas à ta vie derrière, hein. On le sait ça, mais j'étais beaucoup dans la maîtrise, beaucoup dans l'esthétique, beaucoup dans le beau, le visuel un peu parfait, etc. Et je me suis trituré le cerveau un peu avec ça. Et je me suis dit au bout d'un moment, je me suis dit, wow, ça a rien d'être sur un réseau social si en fait tu prends pas de plaisir, tu calcules tout, tu vois, c'est pas possible. Et au fur et à mesure du temps, plus j'étais à l'aise sur mon compte, plus j'ai débloqué en fait des choses. Comme je fais avec mes clientes finalement, c'est ce que je leur propose aujourd'hui. J'ai débloqué et j'ai commencé à être plus authentique, à parler pas que du beau, mais de parler aussi de mes réflexions, à partager des choses un peu plus profondes. Et ça m'a servi je vais pas dire thérapie, mais le fait d'écrire, de partager, ça a quelque chose de vraiment aidant dans ton quotidien, tu vois? Ça,
Je pense que c'est thérapeutique quand même.
ouais, c'est thérapeutique en fait, t'as raison.
Parce que tu te parles en fait, enfin, c'est comme parler à un psy où tu lui dis les choses, c'est un peu via ce canal-là, mais c'est le même process de dire les choses, de les sortir et de les poser.
Ouais, t'as raison. Ouais, exactement. Et c'était dans une période où moi je venais d'arriver à Toulouse en plus, donc j'avais pas trop de réseau. Moi, je connaissais personne. Tu vois, je partais de Barcelone où j'avais tout mon réseau à zéro, tu vois. Donc, je pense que c'est un réseau qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Au début, je connectais avec des mamans qui vivaient les mêmes choses que moi, etc. Et plus le temps a passé, plus voilà, je me suis débloquée, je me suis détendue, je me suis dit, vas-y, il faut que ce réseau, il faut que ça reste du kiff en fait. Si c'est pas du kiff, si c'est pas du plaisir, en fait, c'est une corvée. Et après, quand c'est une corvée, ça se ressent sur les réseaux aussi.
Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a beaucoup ce truc où Instagram, enfin, c'est presque antinomique. En tout cas, moi, je suis pas une pro d'Instagram, mais à premier abord, c'est pas le réseau où tu dis, c'est égal à spontanéité et authenticité. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus, mais ça l'était pas au début.
Ça l'était pas au début. C'était très, justement, c'était très dans l'inspiration, dans le beau, dans les rêves, dans ce que t'imaginais avoir, machin. Mais à la fois, ça nous a saoulés tous au bout d'un
Exactement,
moment,
ouais.
parce qu'on s'identifiait pas à ça. Donc, je trouve que c'est un réseau qui a retrouvé de l'authenticité et qui est devenu plus spontané. Et ça, c'est cool, ça fait du bien. Alors après, il y aura toujours des comptes qui le sont pas. Mais voilà, moi, c'est vraiment des choses que j'essaie de montrer aux personnes que j'accompagne, etc., de dire que c'est ok en fait de pas faire une vidéo comme un vidéaste le ferait, c'est ok de faire une vidéo en 5 minutes parce qu'elle est spontanée en fait. Tu vois? C'est un chouette réseau quand tu l'utilises de cette façon-là en tout cas.
Et est-ce que tu as eu, quand tu es passé un peu dans l'authenticité où les choses sont moins parfaites, où tu dévoiles plus aussi, est-ce que tu as eu un peu des haters, des gens pas sympas qui te faisaient des commentaires sur, je sais pas, la qualité ou le contenu, ou est-ce que ça ouvre cette porte aussi? Je pense que c'est ce qui fait peur.
Mais en fait, ça fait peur, mais moi, j'ai jamais eu de commentaires là-dessus. J'ai plus eu des commentaires quand je commençais à me livrer plus sur, tu vois, ma façon d'être avec mes enfants ou des choses que j'essayais de faire. Tu vois, j'étais pas une maman parfaite, mais j'essayais de faire et que j'arrivais pas. Là, je commençais à avoir des commentaires bizarres, tu vois. Mais c'est surtout les mères entre elles, parfois, elles se tirent un peu dans les pattes, en vrai.
Et ça te posait problème ou pas? Enfin, est-ce que...
Bah, là, j'ai commencé à me dire que je voulais plus trop mettre ma famille en avant. Tu vois, je commençais à me dire, waouh, en fait, il y a une limite, quoi. Et même finalement, voilà, pour moi, je trouvais que j'avais besoin de me retrouver, moi, dans ma créativité sur mon compte aussi, tu vois, il n'y avait pas que ça non plus. Mais effectivement, non, j'ai pas eu de haters par rapport à la qualité de mon contenu ou quoi. Je suis passée d'un contenu très esthétique à un contenu plus spontané. Je pense que oui, effectivement, il y a eu des personnes qui ont dû le remarquer ou et qui ou elles se sont dit voilà le changement bof, mais elles me l'ont pas dit en tout cas, tu vois.
Et puis au pire, elle se désabonne et c'est pas grave.
Voilà, c'est ça. En tout cas, j'ai été beaucoup quand la vidéo est arrivée. Même IGTV, tout ça, je faisais déjà des vidéos de danse, moi, tu vois, même quand il n'y avait pas les Reels. Et je trouvais déjà que le format vidéo, ça allait être un format qui allait beaucoup plus me plaire.
Et comment tu t'es lancée dans la danse? Parce que c'était, enfin, c'est au-delà de parler d'authenticité, danser, je trouve que ça dévoile encore plus d'émotions de ce qu'on est, c'est encore plus se dévoiler.
Ouais, tout à fait. Mais j'ai fait une première vidéo de danse, ouf. J'ai filmé comme ça sans réfléchir en fait à me dire que et je l'ai publié. Je me suis dit c'est un moment que je vis comme d'autres moments que j'ai souvent chez moi, tu vois. Et je l'ai par un jour je l'ai partagé et du coup j'en ai fait une récurrence et parce que j'adorais danser mais je faisais plus de danse, tu vois. J'allais plus en studio, j'allais plus, je le faisais à la maison. Et du coup, c'est devenu une habitude et les gens ont commencé à m'envoyer des stories où ils dansaient, à me taguer dessus. Et il y a eu une espèce d'effet boule de neige là-dessus. Trop chouette, où du coup, je voyais les gens danser avec leurs enfants, seuls, enceintes, en famille. Enfin, c'était génial. Et du coup, voilà, il y a eu cet effet-là où j'étais un peu la première à danser, même avant que les marques arrivent avec la mode de la danse dans les collections et tout. J'étais une des nanas qui a commencé à danser, ben en tout cas, influenceuse française a commencé à danser rapidement sur Instagram. Et ça a créé un truc très chouette avec ma communauté. Et du coup, ils se souviennent de moi avec pour ça aussi, tu vois.
Ouais, bah oui, c'est un peu sa signature, ouais.
Moi, c'était juste pour partager une émotion et un lâcher prise qui me faisait kiffer moi au quotidien, en fait. Pour moi, c'est la danse, c'est un moment pour soi où comment dire? Où t'es à la fois, enfin, c'est très intérieur, tu vois.
C'est
T'es en
méditatif
toi.
presque, ouais.
C'est méditatif, exactement. Il y a des personnes qui trouvent de la méditation dans plein d'autres activités. Moi, c'était ça. Dès que je fermais les yeux, dès que j'étais dans la danse, j'avais vraiment une connexion à moi qui était forte, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que sont nées les danses. Et maintenant, j'ai repris la danse. Et waouh, belle claque, j'adore. Ouais, je teste un style de danse, je suis vraiment dans une passion, ouais, retrouvée, tu vois.
Est-ce que t'as peur, Yasmine, que tout s'arrête? Parce que ton canal principal, c'est Instagram, ta communauté, c'est Instagram, comme beaucoup de gens. Et il y a eu un bug sur Instagram il y a quelque temps, je sais plus si c'était l'année dernière ou quoi, et pendant quelques secondes, c'était panique à bord. En fait, on est méga dépendant de cette plateforme. Ceux qui n'ont pas de newsletter, on n'a aucun contact. Et si du jour au lendemain, il y a un méga bug et que ça disparaît, bah tout part avec. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses, qui te fait peur, et est-ce que tu penses à l'après, s'il doit y avoir un après?
J'y pense pas vraiment, mais là, vu que tu poses la question, du coup, j'y pense.
Veux te créer un problème, tu sais.
Mais je me dis, ça aurait été super. Et enfin, je rebondis, en fait. Je vais faire autre chose. J'ai pas peur, en fait. Je me dis, j'ai vécu des super moments et ça aurait été génial et voilà, et j'aurais fait plein de rencontres, eu accès à plein de marques, j'aurais travaillé avec des personnes géniales, avec des beaux projets. Mon réseau, je l'ai déjà, en fait. Même si Instagram s'en va, j'ai mon réseau, tu vois. Comment dire? Ben, finalement, non, je pense que, ouais, je vais faire autre chose, je vais me réinventer parce que de toute façon, j'adore les nouveaux projets et ça me fait pas peur. Et je trouverai, hein, une façon de Je travaillerai peut-être dans l'art thérapie, je travaillerai peut-être dans la danse, je ferai un truc autour de ça, tu vois, je pense. J'ai pas peur de ça parce que je me dis c'est pas grave, tu vois, j'ai appris tellement de choses grâce à ce réseau.
Ouais, t'as confiance.
Ouais, j'ai confiance. J'ai eu accès, voilà, J'ai grandi avec ce réseau, j'ai appris mon métier avec, je sais faire de la photo, je sais faire de la vidéo, ben, je pourrais me débrouiller, tu vois.
Si tu devais donner un top tips à quelqu'un qui se lance ou qui est déjà sur Instagram et qui galère, peut-être un peu moi, enfin qui comprend pas forcément tous les codes ou qui trouve ça méga compliqué, s'il y avait un ou deux tips évidents pour toi à partager, ce serait quoi?
Alors, déjà la notion de plaisir. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est quelque chose qui joue énormément dans les contenus qu'on va partager. C'est-à-dire que si on se bloque beaucoup avec cette plateforme, si on se dit, tu vois, sans cesse, je sais pas quoi raconter, j'ai pas le temps, non, la communication, ça me gave. Forcément, on sera dans une énergie un peu négative avec le réseau, tu vois. Si on se dit, j'ai une histoire, j'ai envie de la raconter. J'ai envie de me présenter. J'ai ces valeurs-là qui sont dans mon entreprise et franchement, il faut que j'en parle. Tu vois, des choses qui sortent des tripes, quoi. Quand on crée un projet, on a des valeurs qui sont incroyables. Quand on est cette personne derrière ce projet-là, on est incroyable parce qu'on a osé créer quelque chose qui correspond à ce qui nous touche le plus, tu vois. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui se disent, j'ai rien à raconter. Mon histoire, elle est pas ouf, tu vois. Bah si, en fait, on a tous des choses à raconter. Et moi, je kiffe le storytelling. C'est-à-dire que moi, je vais m'attacher à un compte Instagram si je vois qu'il y a des histoires qui me sont racontées. Parce que si on me dit, voilà, ça, c'est une chemise, elle est rose, elle a trois boutons, et voilà, ça va pas m'intéresser. Si tu me dis, bah, cette chemise, je l'ai conçue comme ça, parce qu'en fait, ma grand-mère portait toujours cette chemise, un style de chemise similaire, avec des couleurs similaires. J'ai voulu la réinventer, lui apporter un truc un peu moderne. Mais voilà l'histoire, c'est ça. C'est des souvenirs de ma grand-mère devant son miroir, hyper coquette. Tu vois, je sais pas, je t'invente un truc.
Mais tu m'as
Mais
fait rêver là, je suis partie.
non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin,
Absolument, absolument,
je
absolument.
pense qu'on a tous des histoires à raconter et c'est juste trouver une chronologie. Moi, mon conseil, c'est raconter votre histoire. Alors, ça ne veut pas dire raconter votre vie personnelle. Racontez comment vous est venue votre idée de podcast pour toi, par exemple. Tu vois, comment est venue l'idée du projet? Pourquoi? C'est quoi les difficultés qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à l'action dans ce projet? Quelles ont été les difficultés? Quelles ont été, tu vois, raconter des anecdotes autour de ça, de personnes qui ont participé au projet. Enfin, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Et juste, prenez ce temps-là, mettez-vous devant une feuille, un crayon, un ordi, peu importe, écrivez une histoire. Écrivez une page, deux pages, trois pages, écrivez des choses, laissez-vous aller. Et ensuite, vous prenez ce document et vous en faites une chronologie de posts qui reviendra, je sais pas, comme une série de posts qui reviendra toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, où vous allez partager un petit bout de votre histoire, comme ça, de façon comme une série, tu vois, quand tu suis une série, tu as des épisodes, bah, la même chose. Ça plaît énormément aux gens. Et au-delà de ça, effectivement, il y a d'autres histoires, l'histoire du service que vous proposez, du produit, mais voilà, essayez de voir les choses sous un autre angle. Pas forcément que un truc froid où on se dit, je dois faire mon poste et le balancer. C'est pas que ça. C'est un tout. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite en fait dans la création de poste, tu vois, t'as tout ce qui est ChatGPT, tout ça,
Tu utilises ça? Ouais.
faut les utiliser. Oui, parfois j'utilise, ouais, pas tout le temps, mais ça m'arrive pour aller plus vite. Ça m'arrive, ouais, j'écris mon texte et je lui demande de l'améliorer, tu vois. J'écris mes idées et je lui demande de développer. Il faut utiliser ça
Bien sûr, bien sûr.
parce que ça nous permet d'aller plus vite dans nos métiers. Pour moi, c'est hyper utile. Donc, premier conseil, c'est ça, raconter des histoires. Deuxième conseil, c'est arrêter d'attendre que les contenus soient parfaits pour les publier. Ça, c'est un truc aussi, je le vois énormément, tu vois. Le nombre de personnes qui ont des vidéos en brouillon, des trucs où elles se disent, oh, ouais, en fait, je vais pas le mettre parce que machin. Tu vois, trop de réflexion qui tue l'action. Donc ça, c'est aussi important. C'est pas grave si c'est pas parfait, tu testes, tu l'envoies, tu testes. Plus t'avances, plus t'analyses. Il y a des posts qui fonctionneront mieux que d'autres. Bah, pourquoi ils ont mieux fonctionné? C'était quoi le sujet? Pourquoi ce sujet, il est chaud auprès de ma communauté? Ah, ok, bah, du coup, je vais développer là-dessus. Enfin, voilà, apprendre à regarder un peu ce qui se passe sur le compte, mais c'est normal que ce soit un laboratoire de test. Les gens, ils ont peur de tester. Tu vois, ils vont faire un post, ça va pas marcher, ils vont pas revenir pendant 2 mois, tu vois. Alors on peut tester, c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir des mauvais résultats. Ça, c'est notre truc, bon élève, tu vois, à l'école et tout. C'est pas grave, au pire, tu caches les likes et on s'en fout, tu vois. Voilà, en tout cas, ne pas avoir peur de publier du contenu, qui soit, comment dire, pas parfait. Voilà, c'est normal, il faut apprendre à le faire doucement, mais sûrement. Et après, effectivement, si tu cherches à aller plus loin et à avoir des contenus qui sont publiés dans les règles, etc., avoir des tips, parce que après, tu as beaucoup de communicantes, hein, comme moi, communicants qui sont là et qui donnent des conseils. Donc, faut pas hésiter à les suivre. Après, c'est toujours des bouts de puzzle qui sont difficiles, enfin, qui sont pas ensemble, tu vois. C'est-à-dire que tu prends un peu là, mais parfois tu suis un conseil d'une personne qui est pas du tout dans ton milieu, du coup tu te retrouves à faire un truc qui est pas adapté à qui tu es. Donc faut faire attention à ça. Mais voilà, ça c'est les top conseils que je peux donner. Spontanéité, authenticité. Parfois vous allez vous dire, vous allez avoir envie de partager un moment spontané, vous allez vous dire, ah non, ça je vais pas le mettre quand même. Bah faites-le quand même. Mettez-le au moins en story, mais il faut que les gens connectent avec vous, en fait, c'est ça.
Top,
Voilà.
merci Yasmine, merci. Yasmine, je veux revenir à la femme et à la maman. Tu es maman de deux garçons.
Ouais.
Qu'est-ce que la maternité a changé en toi?
Waouh. Ben, je pense que c'est un sacré chamboulement. Surtout que moi, je les ai eus de façon rapprochée, donc ça a été assez sport. Ça a été un chamboulement physique déjà d'une part, et après waouh, ça a été. Je me suis rendu compte de toutes les choses en fait. Je me suis rendu compte de la vie que ma mère avait pu avoir. Tu vois, au moment où je suis devenue maman, tu comprends tout quoi. C'est bizarre hein, mais tu comprends les choses et ce que ça a changé en moi. Je suis restée la même, mais je crois que ça m'a donné une force et ça m'a donné une empathie encore plus forte envers les femmes, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose, ça, quand même. Ouais, je me dis, c'est quand même une expérience extraordinaire, tu vois. Ça chamboule tout, les émotions, faut s'adapter dans son couple, faut, tu vois, waouh. Moi, je suis une maman assez fusionnelle, tu vois. C'est un peu ce que j'ai connu, donc c'est ce que je donne aussi à mes enfants. J'adore et je me dis, ouais, je ferai toujours du mieux que je peux. Par contre, ce que je veux que mes enfants voient, c'est que leur maman, elle est bien, elle est épanouie. Et même si elle est indépendante, je suis pas une mère au foyer. Je suis une maman qui travaille, qui a sa société, qui aime profiter de ses amis, mais qui adore être avec ses enfants aussi. Tu vois, je fais tout en même temps. Et à un moment, j'étais un peu, j'ai un peu culpabilisé pour ça, tu vois, parce que je voyais tout l'inverse sur les réseaux. Et du coup, je me suis dit, waouh, je suis une maman quand même un peu trop indépendante. Et en fait, non, mes enfants, ils sont heureux parce que je suis heureuse comme ça, tu vois. Donc là, je redeviens, après, ils ont grandi, mes enfants, mais j'ai quand même mis les choses entre parenthèses quand ils sont arrivés, tu vois. Le côté femme, il est revenu bien plus tard. Mais j'ai mis les choses entre parenthèses, j'étais vraiment avec mes enfants à m'occuper d'eux, etc., qui manquent de rien. Et là, je me retrouve de plus en plus, tu vois, avec le temps, le fait qu'ils soient plus grands, plus autonomes, etc. Maintenant, voilà, je peux me retrouver dans la femme que je suis, aller vers mes passions et faire plus de choses pour moi, tu vois. Et ça, c'est important de le retrouver pour toutes les femmes, en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'une maman, on n'est pas qu'un ventre, on n'est pas que des mains pour s'occuper de tout le monde à la maison, mais on est aussi nous, quoi. Et si nous, on est bien, si nous, on trouve du temps pour nous, si nous, on a, ouais, voilà, ne pas s'oublier, quoi. Ça, c'est la chose la plus difficile pour les femmes, je
C'est clair. Et comme tu dis, les réseaux et tout, ça culpabilise vachement parce que les personnes montrent ce qu'elles veulent, mais tu as l'impression que tout est autour de l'enfant. Enfin, de ce que tu vois, tu as l'impression que les familles sont parfaites. Et en fait, la perfection dont on parlait sur les posts et les réseaux, ben, il n'y a pas de vie parfaite. Et la perfection, c'est une définition qui est propre à chacun et à chaque famille. Et comme tu dis, ils ont besoin de voir une maman heureuse et équilibrée. Et puis chacune, si c'est par le fait d'avoir sa vie sociale, son travail, bah, c'est que c'est le bon truc.
Exactement.
Est-ce que dans notre société actuelle, tu penses qu'on a une responsabilité encore plus grande à élever un garçon, des garçons pour le coup? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses dans ta manière d'élever tes garçons par rapport à la position de la femme, par rapport à tout ce qu'on entend?
Clairement, clairement. Ben, surtout que moi, je suis très... enfin voilà, pour moi, c'est important de le respect entre hommes et femmes. C'est vrai que moi avec mes garçons là, ce sur quoi on travaille autant le papa que moi, c'est vraiment de les rendre autonomes déjà, tu vois, d'aider déjà dans l'aspect quotidien. Ils savent faire leur lit, ils savent s'occuper. Enfin, tu vois, ils débarrassent la table, ils la mettent, etc. Ils ont 5 et 7 ans là. Le petit, il aide moins, il est moins dans ça, mais le grand, on lui montre vraiment. Tu vois, les deux, on leur montre vraiment ce qu'il faut faire. Et après, moi, j'ai beaucoup de conversations avec eux autour de... C'est moi qui gère ça, plus l'aspect, tu vois, sexualité, respect des autres, tu vois, des attitudes à l'école, on les décortique, on explique, on essaie de voir ce qui en découle, parce que c'est difficile à l'école encore à cet âge-là. Hein. En tout l'aspect physique, ils te sortent des trucs, t'es là, mais oh, je suis choquée moi parfois. Donc voilà, je fais attention à ce que il y ait un respect énorme sur, tu vois, même le consentement. Tu vois, même aller toucher les cheveux en fait d'un enfant, hein, je leur dis, hein, vous demandez en fait, tu vois, des conneries comme ça, mais ça, pour moi, c'est important qu'ils demandent, qu'ils ne fasse rien qui puisse manquer de respect envers les autres. Et vice versa, je leur apprends à se protéger aussi des autres. Voilà. Donc, voilà, je fais comme je peux, je fais ce que j'aurais aimé avoir moi petite, je leur fais pour eux, tu vois.
Tu parlais, Yasmine, de la transformation post-maternité et t'avais contribué, t'avais fait un projet Cher corps, je t'aime, que j'avais trouvé hyper intéressant. Tu peux nous en parler, ça date d'il y a quelques années, mais je trouve
vieux,
que c'est...
Ça me touche que tu me parles de ça.
Ah, mais je trouvais le projet. Ah ouais? J'ai adoré ce projet. Je trouvais que, et puis, enfin, c'était à quoi? Il y a 3 ans, 4 ans?
Ouais.
Et on le voyait pas autant. Enfin, là, il y a un peu plus, les langues se délient un peu, on en parle un peu plus, on voit un peu plus d'images, même si c'est toujours pas assez. Mais tu peux nous en parler et je repartagerai les photos avec l'épisode.
Ouais, avec plaisir. Alors, Cher corps, je t'aime, c'est venu d'un moment où, du coup, je réapprenais à accepter mon corps de maman après avoir eu 2 enfants. Donc effectivement, j'avais un ventre vergeturé que j'ai toujours d'ailleurs et que je chéris maintenant. Et j'ai commencé à le montrer, à faire des photos de moi d'abord comme ça. Et ensuite, je me suis dit waouh, en voyant les commentaires, les gens, les femmes qui me partageaient en fait leur histoire à elles, je me suis dit waouh, j'adore faire de la photo. J'ai envie que ces femmes, elles viennent dans un cocon intime avec moi, chez moi. Elle se trouve belle déjà et que ça serve de moment privilégié où elle pourrait partager leur histoire à quelqu'un et voilà, c'était un petit moment comme ça assez émouvant finalement. Du coup, je faisais venir des femmes qui avaient des histoires très différentes mais qui avaient eu un truc par rapport à leur corps, tu vois. Il y a eu des femmes qui ont été victimes d'inceste, il y a eu des femmes qui étaient plus rondes et d'autres plus fines et d'autres plus grandes et d'autres... Tu vois, l'idée, c'était de montrer la diversité aussi dans le corps ou les histoires des corps par la photographie, par l'image et par moi, l'œil que je portais sur ces femmes-là, tu vois. Enfin, le regard, pas l'œil, le regard que je portais sur elles, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sororité finalement, tu vois. Donc, voilà, j'avais un fond qui était toujours le même et je les faisais défiler, venir et je les prenais en photo. Et mon objectif, c'était qu'elles se sentent belles en repartant de chez moi et qu'elles se sentent comprises, écoutées et qu'elles aient eu ces petites bulles d'amour, en fait, pour elles. Mmh. Voilà.
Trop chouette. Trop chouette.
Ouais, c'est, je t'ai dit, ça m'émeut, là, beaucoup d'en parler. C'était un moment incroyable. Enfin, je me dis, en fait, j'ai fait plein de trucs.
Ben ouais, on s'en rend pas compte, hein, jusqu'à ce qu'on en parle et qu'on revienne. Je trouve, je parlais avec une copine récemment, que j'ai interviewée d'ailleurs, et elle me dit, ah, syndrome de l'imposteur, elle sait que des super nanas. Et je lui disais, notre problème, c'est que on fait pas pause des fois et on revient sur notre parcours et on réalise le chemin parcouru et la multitude de choses qui ont été faites.
Ouais, c'est incroyable. C'est vrai qu'on se pose pas trop pour ça, mais ouais.
Bah écoute, si c'est l'occasion, je suis ravie de contribuer à ça à ma micro-échelle. Yasmine, quelle serait ta définition de la réussite? Ta définition personnelle?
Alors ma définition, avant je t'aurais dit que c'était faut faire de l'argent, faut réussir, faut machin. Avant je t'aurais dit ça. Parce que j'étais beaucoup plus quand j'ai lancé mon projet, tu vois, j'avais vraiment envie de m'en sortir,
Puis il
tu
faut
vois,
manger.
je voulais prouver quelque chose au monde, tu vois, même prouver que je venais d'une famille modeste, que mon père il a grandi dans les bidonvilles et que moi je vais lui, tu vois, moi je vais l'aider quand je pourrai, tu vois. Et en fait aujourd'hui, c'est plus du tout ça ma définition. C'est déjà de la réussite, c'est d'être dans un, comment dire, une réussite personnelle épanouissante en fait, dans laquelle tu vas trouver un travail qui correspond à qui tu es vraiment, qui est aligné à ta personnalité, à tes valeurs, dans lequel tu t'épanouis, et effectivement où tu gagnes ta vie avec, bien sûr, mais suffisamment pour kiffer en fait, juste pas forcément avoir 10 000 euros par mois, mais juste avoir un salaire qui te permette d'avoir une vie où t'es pas forcément à travailler 50 heures par semaine. Mais tu profites de ta vie, tu vois. Tu peux travailler 20, 25, 30 heures par semaine, profiter de tes enfants à côté, avoir tes passions, voir tes amis, et sans avoir un salaire de maboule, juste de quoi vivre correctement, et voilà. Et pas s'oublier soi, en fait, tu vois, dans le travail. Moi, c'est ça, pour moi, la réussite, c'est ça, c'est quand t'arrives à pas être que dans ton boulot et que t'arrives à être dans, voilà, à recevoir de l'amour à en donner et kiffer ton métier.
Qu'est-ce que tu dirais à la Yasmine enfant?
À la Yasmine enfant, waouh! Ah, ça c'est une bonne question, hein. Parce que je lui dirais, t'as vu ce qu'on a fait? Je lui dis, t'as vu quand même, on a fait plein de choses, on s'est amusé, on a kiffé. Et si elle avait pas vécu encore ça, je lui dirais, vas-y, fonce, déchire tout, tu vois. Fais ce que t'aimes et advienne que pourra, quoi. Et c'est vrai que ça m'a aidé d'avoir été têtue comme ça, d'avoir eu la force d'être combative, malgré ce qu'on me disait, ce que les gens me disaient, tu vois, mais tu vas pas faire ça toute ta vie, tu vas pas être dans des boutiques, des machins, tu vois. Bah, si, en fait. J'allais quelque part, sans le savoir. J'allais quelque part. C'est pour ça, les gens qui font des métiers pas, où ils sont pas forcément en kiff aujourd'hui, lâchez rien, quoi. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Vous avez quelque chose qui vous dit que c'est vers là que vous voulez aller. Allez-y, tu vois. Et étape par étape. Mais tout est possible.
Tellement. J'écoutais le podcast d'un psychanalyste récemment et il disait jusqu'à un certain âge, on conduit dans la nuit. Et en gros, tu vois rien. Tu conduis dans la nuit, t'as juste la lumière en face de toi et tu
C'est vrai.
conduis, tu sais pas ce qu'il y a autour. Et en fait, tu commences à être adulte ou enfin à notre âge. Et en fait, le jour commence à se lever et tu vois que toute l'histoire, elle avait un sens et c'était le chemin et tout s'éclaire et tout a un sens en fait. Tout est construit d'une manière qui te mène à ce que tu es aujourd'hui. C'est un peu ce que ça m'inspire un peu ton parcours, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure.
Ben ouais, ça correspond parfaitement à ça. C'est un bon résumé et une belle conclusion, ça, tu vois.
Est-ce que tu as une devise ou un mantra?
Ben, je l'ai dit juste il y a 2 minutes. Pour moi, c'est tout est possible.
Un livre qui t'a marqué, que tu recommanderais à une amie?
Un livre qui m'a marqué. Il y en a plein. Je dirais, il y en a plusieurs, mais c'est un livre business plus. Il s'appelle Superfan. Et ça parle des communautés et comment faire en sorte d'avoir une communauté qui n'est plus fan, mais super fan, tellement t'as appris à communiquer avec elle de manière, bah, authentique et spontanée, tu vois.
Un lieu.
Un lieu, wow. Je dirais, j'en aime plein, c'est compliqué. Moi, je suis une fille du soleil, donc là, j'ai le souvenir, tu vois, j'ai un souvenir au Maroc qui me vient en tête, où on se baigne dans la source avec mon père, mon frère, ma mère. Ça, c'est un beau souvenir. C'est vieux, mais waouh, c'était chouette.
Ta plus grande fierté?
Ah, ma plus grande fierté, j'en ai plein. Je dirais que je suis super fière de mes parents parce qu'ils m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Ils m'ont soutenue, même si j'étais pas facile, hein. Ils étaient là pour moi. Donc ouais, ma plus grande fierté, c'est eux. Et après, c'est mes enfants. Mes enfants, c'est des mini-nous et c'est des mini-moi et je vois déjà leur énergie, leur côté solaire et c'est magique.
Une chanson.
J'aime toutes les chansons africaines, toutes les chansons américaines, arabes. J'en ai plein des chansons que j'adore. Je peux pas choisir. Les chansons afro. Je suis tellement éclectique dans les sons que pour moi, je peux pas te dire une chanson. Je dis, allez écouter tous les styles de musique.
Génial. Et une femme de culture arabe que tu me recommanderais ou que tu dont tu aimerais écouter le parcours sur le podcast?
Ah, intéressant ça.
C'est la minute sororité, ouais.
Je dirais une nana d'Insta que j'adore, qui s'appelle Leila, et qui sur Insta, elle s'appelle Leila Salomé. Je sais pas si tu vois
Ok.
qui c'est.
Non, je connais pas, non.
Ben en fait, elle propose des soins beauté naturels. Et tu vois, sur son compte, il y a écrit « Experte en soins fait maison, je t'aide à libérer ta beauté » avec des... Bon, après, elle donne des tips et tout. Et j'aime beaucoup l'énergie de cette nana. Donc, voilà, ça pourrait être elle, mais il y en a tellement! Ouais, je trouve que ton podcast, il est vraiment d'utilité publique.
Merci. Merci infiniment, Yasmine. C'était un vrai plaisir. J'ai vraiment passé un moment très, très agréable en ta compagnie.
Moi aussi, merci pour cette invitation, franchement. J'ai eu beaucoup de... J'adore ce format parce que c'est très intime et à la fois, merci de m'avoir permis de partager ces petits bouts de ma vie et j'écouterai avec plaisir la suite des invités.
Super. Merci infiniment, Yasmine. À
Quant à
très
toi.
bientôt. Merci. Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout, ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heya_podcast. À très bientôt.